Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté cette invitation. D'autant que le fait de considérer la période qui va de 1919 à 1939 sous l'angle de la tourmente ou du bouleversement constitue sans doute une des interrogations les plus passionnantes qui soit quand on s'intéresse à cette époque à la culture et la littérature des années 20 et 30. Cela est particulièrement vrai au sujet de l'Allemagne. Ce pays a en effet connu plusieurs moments de bouleversement, d'une part en ce qui concerne la situation politique globale et d'autre part pour ce qui est de la vie culturelle dans son ensemble et de l'évolution de la littérature. La Première Guerre mondiale, ou plutôt la défaite, la fin de monarchie et l'établissement de la Première République sur l'ensemble du territoire allemand. Et ensuite, la fin, ou pour être plus précis, la dissolution forcée de cette République, puis tout de suite après l'expulsion des opposants politiques et des ennemis du régime, et parmi eux de presque la totalité du monde intellectuel et culturel allemand. Une saignée dont on sait que l'Allemagne mettra un temps considérable à se relever, y compris après-guerre. Comme je l'ai dit, c'est avec joie que j'ai reçu l'invitation à ce colloque dont la thématique me passionne. Pourtant, je dois dire qu'au début, je me suis étonnée que l'on me prie ou que l'on m'engage à retracer les bouleversements qu'ont connus l'Allemagne, sa culture et sa littérature à cette époque pour le truchement de l'auteur Lein Feuchtwanger. Il serait en effet légitime de se demander si ces auteurs comme Heinrich Mann, Alfred Döblin, Thomas Mann ou Bertolt Brecht ne sont pas des figures bien plus représentatives de la République de Weimar et des premières années de l'exil européen. Surtout pour ce qui est de l'exil en France, qu'il se soit ici à Paris ou dans le sud du pays, à Sanary-sur-Mer, où bon nombre des exilés allemands ont trouvé refuge après 1933. Dans Feuchtwanger, qui a élu domicile à la Villa Wellmer et a pu établir quelque chose comme un nouveau centre culturel pour les intellectuels qui avaient été chassés ou avaient fui l'Allemagne. Après réflexion, j'ai rapidement compris que la figure de Lein Feuchtwanger est particulièrement adéquate pour donner à voir les bouleversements qu'il convient d'évoquer pour la période qui nous intéresse dans la littérature et la culture allemande. En effet, si cet auteur ne vient pas immédiatement à l'esprit quand on nomme les représentants les plus importants de la République et de Weimar et de son époque, il est tout de même, à côté de Döblin et des frères Mann, celui qui, du point de vue de l'histoire littéraire, a permis à la littérature de langue allemande de passer de l'expressionnisme des années 10 à la culture de la nouvelle objectivité qui caractérise les années 20. Feuchtwanger a également contribué de façon décisive à instituer ce changement d'époque et à donner à l'époque de Weimar son empreinte spécifique. Son travail est symptomatique du changement de la littérature allemande entre 1919 à 1939. D'autant que Feuchtwanger et ses romans « Le Schiffsus » et « Succès » en allemand « Erfolg » étaient très appréciés à l'étranger dans les dernières années de la République de Weimar. En quelques années, « Le Schiffsus » a non seulement été traduit dans les langues mondialement parlées, comme le français, l'anglais et le russe, mais aussi en italien, en hongrois, en hollandais, en tchèque, en finnois et même en hébreu et en japonais. Dans l'Angleterre du début des années 30, les livres de Feuchtwanger constituaient l'un à laquelle on jugeait de la littérature traduite en anglais. « It's nearly like Feuchtwanger » était sans doute le plus grand compliment que l'on pouvait faire en Angleterre à un auteur de langue allemande. Il est vrai que d'autres auteurs ont également joui d'un succès international comparable. On se doit de nommer Thomas Mann, Stefan Zweig et Hermann Hesse. Cependant, Feuchtwanger est le seul romancier de langue allemande dont les romans s'éclairaient et obtenu un tel succès mondial. Feuchtwanger, qui n'est qu'une personnalité secondaire du mouvement expressionniste, est un auteur qui, au début des années 20, montre à la littérature de nouveaux chemins. Après la phase du pathos expressionniste marquée par une attitude et une orientation utopiste et visionnaire, il a été en mesure de fournir les premières indications qui ont ouvert la voie à une littérature et une culture de l'objectivité. Le fait qu'il ait, à la différence d'Alfred Döblin, par exemple, développé sa poétique des faits et de l'objectivité en se confrontant à la littérature et à la culture d'autres pays européens et particulièrement celle des pays anglo-saxons, donne très certainement à sa vie d'écrivain son caractère interculturel, lequel prend toute sa mesure lors de son exil en France et aux États-Unis. C'est aussi ce qui constitue la dimension internationale de son œuvre et de sa conception de la littérature. Il souhaiterait, souligne-t-il, en 1927, être épargné par la limitation des frontières nationales. C'est surtout en direction de l'Angleterre qu'il engage les écrivains allemands à regarder. Il trouve dans ce pays des particularités propres à l'esthétique de la production comme de la réception qu'il souhaiterait faire valoir pour la littérature allemande. Effet et particularité de l'écrivain anglais, elle est le titre d'un article de 1928 qui a éveillé un grand intérêt. Il voudrait avant tout familiariser les autres écrivains allemands avec des facteurs tels que l'actualité, la prise en compte du lectorat ainsi que l'orientation factuelle proche du compte-rendu. Il considère même que la survie de la littérature à l'ère de la société de masse dépend de sa capacité à prendre en charge de tels paramètres. Par-delà les diagnostics nostalgiques de Walter Benjamin ou de Siegfried Krakauer, le premier déplore la perte de l'aura de l'œuvre d'art à l'âge de la modernité, écrit ici en Paris dans la Bibliothèque nationale. Le second énonce un diagnostic selon lequel l'art de masse participe d'un culte du divertissement et de la superficialité, ou bien, comme il l'écrit dans le texte paru en 1928, d'un ornement de la masse. À l'inverse de ces conceptions, Feuchtwanger adopte la perspective d'une nouvelle constellation littéraire, ainsi qu'il intitule un article de 1927. Dénoué de tout regret apparenté à la culture critique, il décèle la concurrence naissante qui confronte la littérature et d'autres médias tels que le film, la radio et une presse qui prend de plus en plus d'importance. En se servant de conseils empruntés à la littérature anglaise, il cherche à placer la littérature dans le voisinage de l'histoire et de l'écriture scientifique. C'est pour toutes ces raisons qu'au début des années 20, il est déjà un des porte-parole de la nouvelle objectivité et un des instigateurs de l'internationalisation de la littérature allemande. On est en droit de supposer que de la même manière qu'Alfred Döblin, il a été en mesure d'adopter ce rôle parce que, comme nous l'avons évoqué, bien qu'il soit né en 1884, il n'a pas participé activement au mouvement expressionniste qui, s'il ne peut pas être considéré comme une exception, constitue tout de même un courant spécifique à l'Allemagne ou aux pays de langue allemande. Cela concerne avant tout l'expressionnisme tardif que l'on qualifie de pathétique, d'utopique et de visionnaire et qui considérait que la guerre a libéré l'Allemagne du caractère conventionnel de l'Empire, qu'elle a purifié de l'esthétisme européen dominant et qu'elle portait l'espoir d'un nouveau commencement. On souhaiterait une nouvelle société purifiée et on la créait par l'écriture, une société qui laisserait derrière elle la rigidité et l'embourbement. Le fait que l'on pense l'obtenir justement la guerre, que l'on considérait encore en milieu des années 20 comme une possibilité et un moyen d'engager un bouleversement ou la tourmente, a vraisemblablement en grande partie à voir avec le pouvoir ininterrompu dont disposa la monarchie allemande jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ce positionnement distingue de façon décisive les années 10 des années 20 et surtout de l'atmosphère de la situation culturelle durant la République de Weimar. Dans le discours littéraire, le retour critique sur la Première Guerre mondiale a constitué une force motrice essentielle pour le changement de point de vue dans le domaine politique, social et culturel, et du même coup pour la modification esthétique qui a marqué cette époque. L'expression qualifiant la République de Weimar de « république sans républicain », une formulation de Heinrich Mann, de « démocratie sans démocrate » ou, pour adopter la formulation de Dublin, une république sans mode d'emploi, il n'est sans doute pas fausse. Pourtant, entre 1918 et 1933, c'est bien la bourgeoisie intellectuelle de gauche qui porte et façonne la culture et la littérature allemande. Cette dernière s'est constamment élevée contre les éléments de continuité et de contingence affectant la politique, l'armée et la justice et qui ont certes à terme mené la République à l'échec mais constitue également la signature et le caractère significatif de cette époque. Il est vraisemblable que cette attitude foncièrement ouverte à l'égard de ce régime républicain et démocratique qui a permis à la République de Weimar d'être une époque d'innovation littéraire est l'une des phases les plus riches et les plus productives de l'histoire culturelle allemande du XXe siècle. Des auteurs tels que Döblin et Precht, les deux auteurs dont on est le plus sûr de pouvoir dire qu'ils portent les traits du génie, selon le jugement formulé par Feuchtwanger, ne sont selon lui guère lus à l'étranger à cause de la manière typiquement allemande qu'ils sont de s'adébattre avec des problèmes de forme qui ne sont pas perçus comme tels dans le reste de l'Europe et parce que ce bricolage excentrique rend leur œuvre fragmentaire et difficilement accessible. Je cite de la constellation de la littérature. Ce jugement n'est vraisemblablement pas entièrement justifié, surtout quand on prend en compte le succès mondial que Döblin a obtenu grâce à son roman Berlin-Alexanderplatz, mais il n'est pas complètement faux non plus. Feuchtwanger, dans la réorientation qu'il préconise, ne souhaite pas s'en tenir à la France et à la modernité viennoise. Feuchtwanger qualifie les écrivains viennois de sceptiques et de tendres, non plus qu'au symbolisme, à la décadence ni à l'esthéticisme, mais regardez en direction de la littérature anglo-saxonne. Dans de nombreux articles, il a d'emblée souligné la fonction exemplaire, surtout de la littérature anglaise, pour une production instructive mais également distrayante, et il a par là même constaté une transformation de l'esthétique de la réception. Je cite, « Parmi les auteurs allemands, dans les circonstances propres à cette époque, les auteurs autrichiens, tendres et sceptiques, pâlissent. De la même manière que durant ces cinq dernières années, Londres, New York et Moscou détrônent la littérature française. Seul peut espérer être clairvoyant et avoir un impact, celui qui rend un contenu intéressant dans une forme immédiatement tangible. Du fait de cette tendance actuelle à préférer les contenus à la manière dont ils sont présentés, c'est avant tout la littérature française qui a perdu de son influence en Europe. Fin de citation, la constellation de la littérature. Selon Feuchtwanger, une littérature moderne et contemporaine doit tenir compte des connaissances des lecteurs par ces derniers, que ce soit du fait de leur expérience propre ou grâce au film et à la radio, connaissent plutôt bien la structure externe du monde. La nouvelle génération veut que l'on forme de situations réelles et concevables sur les manières de vivre et les objectifs d'autres classes sociales, d'autres peuples et d'autres groupes. Les lecteurs anglo-saxons préfèrent également que les auteurs se réfèrent à des expériences, à des statistiques, à des données que l'âme. Ils préfèrent trouver dans un livre des éléments concrets, des informations que l'opinion de son auteur. Ils préfèrent les choses vues aux visions. Fin de citation. Sur les effets et les particularités de l'écrivain anglo-saxon, un article de 1928. Du même coup, il définit, tout en formulant des positions centrales de la nouvelle objectivité, le statut de l'auteur compris comme celui qui transmet une culture de la connaissance littéraire, une attitude fondamentale qui relève du rationalisme et à la base de ce positionnement esthétique qui revendique pour la littérature tous les moyens de la narration, mais s'y intègre dans le même temps des statistiques, des documents et des éléments documentaires, des connaissances historiques et une représentation factuelle. Quand, en 1927, Thomas Mann, qui était responsable de la collection Bon Marché, mais tout de même de bonne tenue, roman du monde, chercher des ouvrages dont la qualité ne soit pas ridicule, mais qui soit accessible à la masse des auteurs qui, selon des propos de Mann, entretiennent l'aventure au meilleur sens du terme et le divertissement. Et la possibilité de faire référence à Feuchtwanger et à son roman « Le Juif Sus » d'autant de 1925. Mais c'est surtout dans le roman Succès, paru en 1930, le premier volume de sa trilogie intitulée « La salle d'attente » que Feuchtwanger a réalisé littérairement les maximes poétologiques d'une littérature usuelle de bonne tenue. Il discute en outre ses conceptions dans ce roman grâce au personnage de Brockel, dont le modèle est Bertolt Brecht, et de Jacques Duvalin, qui en double de l'auteur. On peut y lire dans une allusion à la montagne magique de Thomas Mann, avait ce en sens, pendant le plus grand bouleversement du monde, de conserver les sentiments minimes d'une société moribonde, de faire une poésie de sanatorium et de station de cure hivernale, alors que la planète était déchirée par la lutte des classes. C'est certes Caspar Bruckel qui amène cet argument, mais on est en droit de supposer qu'il ne diverge pas fondamentalement de la position de Feuchtwanger durant ces années. En effet, depuis le milieu des années 20, ce dernier avait esquissé dans le cadre d'essais théoriques la conception d'une classe littéraire éclairée. Celle-ci est non seulement ouverte aux autres modes d'expression, elle prend en compte le changement de position de la littérature dans le champ culturel des années 20. Le cinéma, la radio et la presse sont les nouveaux modes d'expression culturelle dominants qui concurrencent la littérature. C'est précisément cette situation que Feuchtwanger prend pour objet dans ses réflexions poétologiques. D'autre part, sa poétique du fonctionnel prend en compte des modèles internationaux. Entre autres, Upton Sinclair, Sinclair Lewis, Jack London, Stevenson, John Dos Passos, Joseph Conrad, Hugh Wells, Theodor Dreiser. Dans ces essais, et surtout dans la constellation de la littérature, le goût du lecteur anglais de 1927 sur les effets et les particularités de l'écrivain anglo-saxon de 1928 et dans le roman d'aujourd'hui et international de 1932, Feuchtwanger développe, en se rattachant à ces modèles, une littérature éclairante, objective et informative. Selon Brecht, son maître, Feuchtwanger, était l'auteur qui parvenait à tempérer, je cite, « la différence radicale entre la poésie et la pensée », fin de citation, qui avait été déterminante jusque dans les années 10. Un aspect essentiel de la littérature allemande de la période de Weimar réside donc dans la réintégration des éléments matériels et réalistes dans l'écriture. Ces tentatives ont lieu depuis le début des années 20 au nom de la nouvelle objectivité, c'est-à-dire au nom d'un mouvement et d'une esthétique littéraire dans l'environnement duquel la majorité des auteurs de cette époque a travaillé. Autre de Blin, c'est avant tout Feuchtwanger qui, en 1922, prend également possession contre l'expressionnisme et plaide pour une nouvelle esthétique littéraire marquée par l'objectivité. Par exemple, il déconseille au jeune écrivain Marie-Louise Fleißer écrire « expressionnisme et combat » car une toute autre direction est en train d'émerger, objective et concise, claire, dans ses contours, et c'est elle qu'il faut suivre. Et puis, on écrit autrement aujourd'hui, on écrit aujourd'hui la nouvelle objectivité. C'est ce que Fleißer a rapporté plus tard. Ce conseil nomme une position que Feuchtwanger a élaborée avec ses collègues écrivains de Munich et son ami Bertolt Brecht, une collaboration sur laquelle repose rien moins que le théâtre épique de Brecht, dont on sait l'importance et dont les exigences et les innovations essentielles consistent dans la relativisation du monde fictionnel pris dans l'acte de narration, la mise en présence du caractère fictionnel de la littérature et du jeu théâtral, et la déconstruction de la distance entre la scène et le public qui en découle et qui en même temps élimine les possibilités d'identification. La connaissance est le maître mot du théâtre épique de Brecht et non le sentiment ou la compassion. Les réflexions de Feuchtwanger au sujet de la modernisation du récit narratif en vue d'élaborer un roman dramatique, un terme tiré d'une pièce de théâtre de 1918, partent de prémices similaires. Elles sont en cible une poétique qui varie entre la littérature et le journalisme, entre le fictionnel et le documentaire, ou plutôt entre la fictionnalité et la facticité. En même temps, Feuchtwanger ne craint absolument pas, pour obtenir une littérature de ce type, d'y intégrer des aspects distrayants. Feuchtwanger prend en sérieux l'instance que constitue le lecteur, les attentes de ce dernier et, par ce biais, des éléments qui relèvent de l'esthétique de la réception sont délibérément intégrés au présupposé esthétique qui préside à la production littéraire. Le récit littéraire doit être uni au compte-rendu scientifique spécialisé et à une orientation distrayante. Il en résulte une littéraire qui trouve sa place entre les lettres et l'historiographie. Je cite, « La littéraire des peuples de race blanche qui est depuis 20 ans une plaisanterie dépourvue de but et de sens, une occupation pour ceux qui ont du temps à perdre, commence peu à peu à mettre en lumière les contenus, la guerre, la révolution, la technicisation. Les producteurs et les consommateurs sont aussi là du pric-à-prac formaliste et étissant que des textes exagérément extatiques et sentimentaux. Ce que cherchent les écrivains et leurs lecteurs, ce n'est pas la transposition de sentiments subjectifs, mais la vision de l'objet, la vie du temps rendue visible, présentée dans une forme convaincante. L'érotisme est renvoyé à la périphérie et ce sont la sociologie, l'économie et la politique qui occupent le centre. Don Juan, dans ses variations innombrables, est en faillite. C'est le combattant, le politicien, le sportif, l'homme d'affaires qui prennent sa place. L'exposition de ce qui est immédiatement tangible passionne l'écrivain et son lecteur. Les mœurs et les coutumes du prolétariat montant, les institutions américaines, les usines, les entreprises, les voitures, le sport, le pétrole, l'Union soviétique. Fin de citation. De telles positions sont l'expression, mais aussi le présupposé d'une modification du champ littéraire dans les années 20. L'orientation visionnaire de l'expressionniste grâce à laquelle l'Allemagne s'était frayée son propre chemin dans le domaine de la littérature et de la culture semble perdre son pouvoir rassembleur. Même l'action de l'esthéticisme européen semble définitivement rompue. Feuchtwanger est, dans cette perspective, un des premiers auteurs qui réclament des changements dans le domaine littéraire et ce, en liant avec les modifications de la situation politique, sociale et culturelle. En analogie avec le régime démocratique et républicain, il fait valoir une démocratisation de la littérature en partant de l'idée de sa fonctionnalisation. Dans ce contexte, Dublin a revendiqué la baisse du niveau général de la littérature dans son discours de 1928 à l'Académie en l'honneur du naturaliste Anno Holz. Feuchtwanger était donc l'auteur qui mettait en pratique cette revendication de manière convaincante dans des romans de qualité. Il aspire à un processus de démocratisation tant sur le plan thématique, sur le plan stylistique. En même temps, il s'adresse à un nouveau public. C'est donc de façon inévitable qu'il en vient à redéfinir le statut de l'auteur et de la littérature. « The German is not interested in politics », constate Feuchtwanger en 1925. Et c'est justement cette attitude qu'en tant qu'auteur, il souhaiterait modifier sa pratique littéraire. Les stratégies qu'il développe dans ce but prennent leur source dans le changement de la situation politique et sociale après 1919, mais elles sont également le résultat d'un changement dans la pensée politique et littéraire de Feuchtwanger lui-même. Le mois d'août 1914, qui inaugure la situation de bouleversement politique de l'Europe, signifie pour cet auteur l'année du tournant intellectuel. Le philologue bourgeois Feuchtwanger obtient en 1907, le titre de docteur de l'Université de Munich avec une thèse portant sur Rabbi von Bacharach de Heinrich Heine et le littérateur influencé par l'esthéticisme The Change pendant les années de guerre et en un écrivain attentif à la politique et intéressé pour les phénomènes sociaux. Dans son essai autobiographique de 1927, Feuchtwanger dresse le bilan de cette évolution en disant que, je cite, « la guerre a apporté des changements dynamiques dans sa pratique littéraire, dans ma pratique littéraire, elle a rapporté ma fine bouche et m'a détourné de la surévaluation des aspects esthétiques et formels et de la nuance pour m'amener à l'essentiel. » Fin de citation. Et cela a pris pour lui la forme spécifique du roman historique. On citera à titre d'exemple le Chufsus et les textes de 1936, Néron, l'imposteur, mais surtout celle d'un roman historique ancré dans son époque, comme c'est le cas pour la trilogie de la salle d'attente. Un sigle romanesque, donc, grâce auquel Feuchtwanger rend compte de la montée du national-socialisme en Allemagne dans la première partie, succès de l'expulsion des Juifs d'Allemagne dans la deuxième partie, les sœurs Oppermann, d'année 1933, et de la vie en exil ici à Paris dans la troisième partie, exil, le nom est exil, 1942. Il s'agit de romans qui se situe entre la littérature et le document, entre la narration et le récit historique. Ils sont un exemple d'écriture moderne, attentif aux films contemporains, aspirant à un haut niveau d'édification, mais ils sont également la prétention de divertir. Dans cette trilogie, Feuchtwanger décrit l'évolution de l'Allemagne entre 1919 et 1939. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et à la fin de l'exil européen pour la majorité des auteurs de langue allemande, il n'a plus écrit d'œuvres de ce type. Le dialogue avec l'Allemagne et l'histoire allemande est rompu, les possibilités d'un roman international en liaison avec l'interculturalité et le caractère international de l'existence en exil ne sont plus données. Jusqu'en 1939, Feuchtwanger a toutefois rendu compte du changement d'époque historique et symbolisé un changement d'époque analogue dans le domaine des terreurs. Je vous remercie de votre attention. Et remercie spécialement Sonja Goldblum du département d'allemand de l'Université de Strasbourg pour la traduction de ma communication. Elle m'assistera également durant la discussion. Merci.